Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'un des trains les plus célèbres de la littérature mondiale, le Transsibérien, grâce à Blaise Cendrars et à sa prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Se rendre dans une gare, déambuler, monter enfin dans un train en partance et voyager, au risque de ne plus pouvoir jamais quitter le train. Pour quel spectacle? Pour quel spectacle au pluriel? Le compartiment, bien sûr, les couloirs, les salons et évidemment le paysage qui défile, que l'on imagine parfois plus qu'on ne le voit réellement. Le passage des frontières, les autres voyageurs, les sons, les bruits, les annonces, les lumières changeantes, la somnolence, l'éveil, parfois peut-être un peu l'ennui. Chacun d'entre nous est un voyageur particulier. Le 9 janvier 2004, dans Carnet Nomade, Colette Fellouze donnait, en direct sur France Culture, le signal du départ, en compagnie d'amoureux, de trains et de gares.
France Culture, bonjour à tous, c'est Colette Fellouze et le Carnet Nomade. À la technique, c'est Vincent René et Bernard Laniel, et Vincent Deck à la réalisation. C'est le poème de Blaise Cendrars, prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, qu'il a écrit à Paris en 1913, qui se faufilera aujourd'hui dans ce carnet nomade, peuplé cette fois du mouvement de train, du battement des gares, du bruit de machines, avec ses grands écrans partout dans le monde, qui vous donnent à lire l'heure, le numéro des quais, le nom des villes, dans un roulement presque fatal. Et vous comprenez très vite que le train est dans le fond une machine à compter le temps, à nommer le monde, à scander votre vie et votre respiration. Et vous êtes là, voyageur de hasard, devant ces écrans, à attendre comme si vous étiez devant la roulette d'un casino, avant de vous diriger vers le quai, vers votre numéro de siège, vers ce paysage que vous découvrez par la fenêtre et qui se présente à vous comme le mouvement de votre pensée. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, écrit Blaise Cendrars. J'avais à peine 16 ans et je me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou où je voulais me nourrir de flammes et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux. En Sibérie tonnait le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra et les eaux limoneuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Dans toutes les gares, je voyais partir tous les derniers trains. Personne ne pouvait plus partir car on ne délivrait plus de billets et les soldats qui s'en allaient aurait bien voulu rester. Un vieux moine me chantait la légende de Novgorod. Moi, le mauvais poète qui ne voulait aller nulle part, je pouvais aller partout. Et aussi les marchands avaient encore assez d'argent pour aller tenter faire fortune. Leur train partait tous les vendredis matins. On disait qu'il y avait beaucoup de morts. L'un emportait 100 caisses de réveil et de coucou de la forêt noire, un autre des boîtes à chapeaux, des cylindres et un assortiment de tire-bouchons de Sheffield, un autre de cercueils de Malmö remplis de bois de conserve et de sardines à l'huile. Puis il y avait beaucoup de femmes, des entrejambes allouées qui pouvaient aussi servir de cercueils. Elles étaient toutes patentées. On disait qu'il y avait beaucoup de morts là-bas. Elles voyageaient à prix réduit et avaient toutes un compte courant à la banque. Or, un vendredi matin, ce fut aussi mon tour. On était en décembre et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Carbine. Nous avions deux coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de Piorzem, de la camelote allemande made in Germany. Il m'avait habillé de neuf et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens, j'ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning nickelé qu'il m'avait aussi donné. Au milieu de cette page, je note donc ces mots, attention au départ, avec la complicité de Jean-Baptiste Aran, des photographes Claudie Sluban et Patrick Barr, qui raconteront, eux, leur transsibérien, d'Adam Biro à la gare de l'Ouest de Budapest et de Claude Esteban, qui vient ici ouvrir ce carnet. Claude Esteban, c'est un poème qui vous est familier, vous qui êtes aussi un amoureux des gares et des trains, le poème de Blaise Cendrars.
Oh, bien sûr, c'est un poème qui nous a tous nourris, et je dirais qui nous a nourris d'imaginaire, car lorsque j'étais enfant, évidemment je n'avais pas lu encore Blaise Cendrars, mais les gares étaient quelque chose à la fois de proche et de mystérieux, puisqu'on ne partait pas, comme aurait dit Rimbaud, on ne part pas, étant donné que c'était la guerre, et donc il y avait une sorte de fascination, pour moi enfant, devant ces gares, puisque j'étais parisien, mais les voyages étaient pratiquement impossibles, où partir exigeait une longue préparation, une sorte de mise en quête de quelque chose, d'un voyage initiatique, puisque les voyages étaient difficiles de par la guerre, de par les difficultés, de par les bombardements, et donc ce qui me fascinait enfant, c'était évidemment les gares parisiennes, dont chacune, à mes yeux, avait leur personnalité. Alors sans doute la plus belle de toutes, c'est celle qui aujourd'hui n'est plus considérée comme une gare. Et c'est peut-être mieux qu'elle ne soit plus une gare, car sinon le président Pompidou l'aurait détruit, parce que c'était vraiment le grand Attila des gares, je pense à la gare Montparnasse. C'est la gare d'Orsay. Et la gare d'Orsay, qui est encore un merveilleux bâtiment, construit d'ailleurs, reconstruit après la Commune, et pour moi c'était pratiquement aussi beau que le Palais Garnier. Mais le Palais Garnier, on pouvait y aller très rarement, mais la gare d'Orsay, c'était la gare qui permettait ces voyages qui partaient vers le sud-ouest, à l'origine de mes parents, oui, aussi bien mon père que ma mère. Et donc je regardais cette gare comme une sorte d'endroit merveilleux où peut-être un jour j'allais partir. Mais d'autres avaient leur personnalité. Et ce qui me frappait dans ce Paris très sombre, sombre par la guerre, mais sombre aussi par la couleur des bâtiments, et les gares étaient encore plus noires que Paris l'était, n'est-ce pas ? C'était la présence de ces, je dirais, de ces cathédrales du 19e siècle qu'étaient les gares. Avec ce, je dirais, ce culte ou cette religion du progrès, qu'on a bien sûr remis en question, mais qui me fascinait énormément. Car au fond, que nous a donné le 19e siècle à Paris ? Évidemment pas d'art religieux. J'écarte de mon souvenir la terrible et atroce basilique de Montmartre, n'est-ce pas, qui montre que les Français n'avaient plus beaucoup de foi, ou les architectes, pour faire du néo-byzantin. Mais en revanche, les gares sont une invention de la deuxième partie, celle que nous connaissons, qu'on appelait jusqu'aux années 1850 des embarcadères, d'ailleurs, ce qui est un mot merveilleux, qui donnait
plutôt
l'image,
en plus,
l'image d'un bateau, n'est-ce pas. Et d'ailleurs, à ce propos, je me souviens que je pense que c'est Baudelaire qui, le premier, a employé un certain nombre de termes qui ont trait au chemin de fer. Dans ce très beau poème Lesta e Mirabunda, il dit « Enlève-moi wagon, emporte-moi frégate ». Et je crois que la première fois que le mot « wagon » apparaît dans un poème, c'est chez Baudelaire. Évidemment, c'est un voyage tout spirituel, mais il y avait déjà l'idée peut-être que le chemin de fer pouvait vous emporter très très loin, n'est-ce pas ? Alors moi, il ne m'emportait nulle part, mais quand je passais devant ces gares, j'avais la tentation de penser qu'un jour je partirais, n'est-ce pas ? Alors il y avait donc la gare
d'Orsay. Comme si on frôlait comme ça le départ, l'idée de départ, toujours.
C'est ça, donc on pouvait rêver dans une gare, surtout dans cette gare d'Orsay. Et puis celle qui me fascinait énormément, qui était vraiment une architecture sublime et qui l'est encore, c'est la gare de Lyon avec son sorte de beffroi, de clocher, qui l'emportait de beaucoup dans mon esprit sur, en effet, sur le Sacré-Cœur, j'y reviens encore, et qui demeure une très belle gare. Et par exemple, quand on va au train bleu, on voit encore ces fresques qui décrivaient les villes, pas très loin, mais ça allait quand même jusqu'à Marseille, jusqu'à Nice, jusqu'à San Remo, n'est-ce pas ? Et tout ça était peint sur le mur comme une sorte
comme
de...
Comme si la destination était déjà là.
La destination
déjà là,
était là, mais
dans
on
les
ne
pierres.
Partait pas, si vous voulez. Alors, quand je suis parti pour la première fois durant la guerre, j'ai fait un souvenir, c'est un souvenir qui est demeuré très très présent à l'esprit, un voyage, si vous me le permettez, qui était très difficile, puisque on était paralysé à Paris, ou presque, et mon père, qui était espagnol, mais on ne bougeait pas de Paris, a eu un parent très proche qui est mort, et donc il est arrivé à obtenir un passeport pour aller en Espagne, ce qui était extrêmement difficile. Alors, on partait dans un train qui s'arrêtait un peu partout à cause des bombardements, et qui était évidemment bondé. Et puis peu à peu, ce train se vidait lorsqu'on traversait, lorsqu'on arrivait en zone dite non occupée, et encore plus lorsqu'on arrivait à Bayonne, puisque là c'était territoire allemand en quelque sorte, et il n'y avait plus que deux ou trois wagons qui arrivaient jusqu'à Hendaye. Et à ce moment-là, à Hendaye, il y avait une sorte de fouille très poussée, n'est-ce pas, comme s'il fallait se dénuder de tout, et à la fin, il y avait un unique wagon tiré par la locomotive et qui franchissait, après de multiples fils de fer barbelés, un tout petit pont sur la Bidassoa et qui arrivait doucement dans une terre différente. Mais il fallait faire un voyage immense pour arriver là, se séparer de tout ce qu'on était.
Cette frontière.
C'est une sorte de voyage initiatique dont j'ai gardé le souvenir, n'est-ce pas ? Et donc, par la suite, les trains se sont mêlés à mes souvenirs, à l'imaginaire, à la rêverie. Et même si je ne partais pas, je rêvais que je partais. Et j'ai toujours été heureux de rêver que je partais en voyage en train, n'est-ce pas ? Je ne me suis jamais guéri de cela, évidemment.
Ça va avec le mouvement de la mémoire, de toute façon,
il y a un
le
peu
mouvement
de train. Si bien que les trains contemporains, que j'aime beaucoup, ne correspondent pas, ils sont trop aérodynamiques, ils vont trop vite. Mmh. Ils veulent copier un petit peu l'avion, si on peut dire. Tandis que ces trains de mon enfance n'arrivaient jamais, ou arrivaient très lentement, n'est-ce pas ? S'arrêtaient absolument partout. Et s'ajoute à ça que, en voyageant, et je n'ai pas fait comme Sandra de très longs voyages, mais on connaît un peu la mentalité d'un peuple, je dirais, ou d'une culture. Je me souviens par exemple que lorsque je descendais un peu plus tard après la libération à Nice, le train n'en finissait plus et il y avait un arrêt indéfini de nuit à Lyon-Perrache. Je ne sais pas pourquoi le train s'arrêtait une demi-heure ou davantage. Et alors on entendait comme une sorte de voix un peu funèbre qui disait Lyon, Perrache, Lyon, Perrache. Et puis après, il y avait les employés qui frappaient sur les bogies avec des marteaux pour voir si tout était bien. Et alors, le plus sinistre, ou presque, enfin, le plus funèbre, c'est qu'il y avait un chariot qui passait et il y avait un homme qui, d'une voix comme ça d'outre-tombe, disait oreiller, couverture, avec une voix d'une tristesse infinie, comme si la France devait toujours dormir. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à ce moment-là, quand on allait en Espagne, et Dieu sait si l'Espagne n'était pas très riche, on prenait des trains qui n'en finissaient plus non plus, qui tombaient en panne en permanence. Mais je me souviens d'une image tout à fait contraire. Dans une gare perdue en Castille, qui s'appelait Talavera de la Reina, c'était extrêmement sombre de nuit. Il y avait des petites ampoules qui pendaient dans une salle au bout d'une petite, juste d'un petit fil électrique. Ça paraissait très sombre. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a crié là. Alors je le dis en espagnol parce que c'est Hay tortilla de patatas, c'est-à-dire il y a de l'omelette aux pommes de terre. Et c'était quelque chose de très joyeux, insolite, de penser que là, même dans les ténèbres, il y avait de l'omelette aux pommes de terre. Donc que la vie continuait. C'était différent comme image entre la France et l'Espagne. Donc vous voyez, c'est des souvenirs et en même temps un peu des inventions personnelles, n'est-ce pas, liées.
Et puis
à
la matière
train.
Même du pays qui est tout de suite là, dans un mot, une couleur.
Et puis il y avait quelque chose aussi, parce que peut-être que je vous lirai une petite page où je parle d'un train de luxe qui m'a émerveillé, qui était le Sud Express. Mais en Espagne, les voyages étaient très conviviaux, c'est-à-dire que les gens, immédiatement, comme si les voyages creusaient l'appétit, sortaient des victuailles, des saucissons, des canettes de bière, des dames jeunes, et on vous donnait à boire du vin, manger du saucisson, etc. Donc il y avait quelque chose immédiatement très très convivial par rapport au train français, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose de plus familial.
Et vous pouvez peut-être nous lire ce poème ?
Alors là, c'est un texte de prose, une page, qui est une sorte de souvenir un peu emblématique et refait sans doute par ma mémoire, qui s'appelle Le Wagon Blanc. Quand je suis heureux, quand il m'arrive d'être heureux, je rêve que je prends le train. Non pas tel ou tel train, dans une gare d'aujourd'hui, un train avec des wagons effilés, des motrices aérodynamiques, aux mâchoires de requins, mais le seul train qui existe vraiment, le train de mon enfance. Celui-ci, à dire vrai, ne comporte dans ma mémoire et dans mon rêve qu'une seule voiture. Elle est blanche, et là, au-dessus des portières, tout au long, des lettres dorées qui permettent de lire ce mot merveilleux, énigmatique, Pullman. C'est un mot anglais, comme toutes les choses confortables de l'existence. On ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais il suffit que la voiture soit blanche, que les lettres du mot Pullman brillent, on est rassuré. Et dans mon rêve et dans mon souvenir, Nous montons, mes parents et moi, dans le Pullman. C'est à la gare d'Orsay. On y arrive en taxi, quelques minutes seulement avant le départ, parce que ma mère, au dernier moment, a oublié à la maison un objet indispensable. Mais on arrive enfin à la gare, un porteur s'empare des bagages qui n'en finissent plus, on court sur le quai, on arrive à temps. Un employé en uniforme brun nous sourit, nous conseille respectueusement de faire vite. Les valises disparaissent comme par enchantement. On pénètre dans le wagon, un autre monsieur en vareuse blanche nous sourit de nouveau, comme les gens sont polis dans le Pullman. On s'assied, non pas dans un compartiment plein de mères de famille qui trimballent des paquets, des enfants, des victuailles, mais dans une sorte de grand salon. Il y a des fauteuils recouverts de velours qu'on peut bouger comme chez soi, des tables recouvertes de nappes immaculées, d'élégantes lampes de cuivre avec des abat-jour roses. Comme on se sent bien, comme on peut étaler ses jambes, comme on peut dire « ouf » dans le Pullman. Mon père oublie qu'il était nerveux depuis le matin. Ma mère, qu'elle a failli perdre son nécessaire de toilette. Le train s'ébranle, le train s'élance. Il cahote sur les aiguillages et puis commence le grand voyage vers le sud. On regarde paresseusement par la fenêtre. Il y a de jolis villages avec des clochers au milieu, des vaches dans les champs, beaucoup de vaches, blanches et noires. On bâille un peu. Et puis c'est l'heure du déjeuner. Sur la table, les verres sont très gros, taillés comme des diamants. On vous demande si vous désirez d'abord une coupe de champagne. Des gentlemen à moustache, britanniques sans doute, préfèrent un whisky. Après, c'est un cérémonial, toujours le même. Il y a souvent en entrée des vol-au-vent ou des timbales de queue d'écrevisse. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. On dit oui, bien sûr, ce sont les menus du Pullman. Au dessert, on se trouve déjà très loin. Mon père, je ne retiens pas tout, me parle de la Dordogne, de la guerre de Cent Ans, des Armagnacs. On lui propose justement de l'Armagnac dans un verre en forme de tulipe. Ma mère dit qu'il ne devrait pas, mais il accepte. Il me donne un canard à sucer. Et puis c'est déjà Bordeaux, on ne s'arrête pas. On traverse des landes et des landes. On voit des pins et des pins. On soupire. Une dame à grand chapeau passe devant nous, me caresse la joue. Il est mignon ce petit. Mon père, avec une politesse exagérée, approuve. On va arriver. On arrive. En daille. Tout le monde descend. Mais moi, je ne veux pas descendre de la voiture. Je veux y rester, puisque je rêve. Et que dans les rêves, quand ils sont beaux, on ne quitte jamais le Pullman.
Merci,
donc,
Claude Esteban.
C'était ce train,
c'est très,
un peu mythique,
c'est,
si vous voulez.
Oui, c'est vrai que le train, le rêve, le mythe, c'est toujours, ça frôle toujours ces territoires.
Oui, on est plus personne, n'est-ce pas? On change tellement qu'on devient une sorte de voyageur qui pourrait ne jamais plus sortir du train, n'est-ce pas? Mais il faut quand même s'arrêter un jour.
Et je vous propose de retrouver Blaise Sandrard, qui ce n'est pas un voyage donc vers le sud, mais vers le transsibérien. Donc on retrouve. Vous m'aviez dit qu'il y avait aussi d'autres poètes qui allaient un peu sur les traces aussi de Sandrard.
Eh bien justement, tout récemment, ça m'a frappé dans la revue IF. Il y a un numéro consacré au transsibérien où trois poètes de Marseille, Henri Deluy, Jean-Jacques Vuitton, Liane Giraudon, ont fait le voyage du Transsibérien, qui demeure très très long, n'est-ce pas? Et à leur façon, chacun a écrit une sorte de poème où Sandrard est un peu à l'horizon, sans doute, il faut le dire, n'est-ce pas? Mais moi, je n'ai pas fait le Transsibérien. Si, à dire vrai, je l'ai fait en suivant Michel Strogoff, car oui, il le faisait à sa façon, mais pas toujours en chemin de fer, n'est-ce pas? Hélas.
J'ai vu les trains silencieux, les trains noirs qui revenaient de l'extrême-orient et qui passaient en fantômes. Et mon œil, comme le fanal d'arrière, court encore derrière ces trains. À Talga, 100 000 blessés agonisaient faute de soins. J'ai visité les hôpitaux de Krasnoïarsk. Et à Kilok, nous avons croisé un long convoi de soldats fous. J'ai vu dans les lazarets des plaies béantes, des blessures qui saignaient à plein orgue. Et les membres amputés dansaient autour, ou s'envolaient dans l'air rauque. L'incendie était sur toutes les faces, dans tous les cœurs. Dans les cœurs des doigts idiots, tambourinés sur toutes les vitres, et sous la pression de la peur, les regards crevés comme des abcès. Dans toutes les gares, on brûlait tous les wagons. Et j'ai vu des trains de 60 locomotives qui s'enfuyaient à toute vapeur, pourchassés par les horizons en rut et des bandes de corbeaux qui s'envolaient désespérément après disparaître dans la direction de Port Arthur. Nous pourrions partir peut-être, Claudie Sloban, de ce petit horaire du Transsibérien que vous avez sous les yeux. Je vois que vous avez entouré des horaires, que c'est écrit en chinois. Et le temps pour le train international, l'Express Train.
Oui, en fait, c'est l'horaire du Transsibérien. C'est en chinois, en russe, c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'anglais, mais l'anglais, c'est pas tout à fait sûr. Et c'est quand vous prenez donc. Déjà, le transsibérien, c'est pas tout à fait le transsibérien que moi j'ai pris. Il s'appelle le transmongolien parce qu'il part de Pékin, il traverse la Mongolie et après il arrive à Moscou. Alors que le vrai transsibérien, c'est celui qui fait Moscou-Vladivostok. C'est-à-dire sur toute la largeur de la Russie. Et quand on arrive à bord du train, qui est tenu par les conducteurs chinois, ils vous donnent gentiment ce petit sorte de, je sais pas, dépliant où vous avez absolument tous les arrêts, toutes les gares. Donc sur ça dure une petite semaine, tout le voyage. Et ce qui est très très bien, c'est que moi, à part, j'avais également... Parce que les horaires, finalement, déjà moi, je le faisais dans le sens inverse, Pékin-Moscou. Donc bien sûr, aucun horaire ne correspondait. Mais surtout, ce qui est très bien, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a tellement de retard, il y a tellement de fuseaux horaires, tellement de... Au bout de 2-3 jours, c'est impossible de savoir quelle heure il est. Parce que chacun vous la donne, soit par exemple les Chinois à l'heure de Pékin, les Moscou, ils vont vous la les Russes vont vous la donner soit à l'heure de Moscou, soit à l'heure locale. Plus par exemple, on regarde donc dans toutes les gares en Russie, l'heure est à l'heure de Moscou. Donc quand vous demandez l'heure à quelqu'un, il vous donne l'heure sur sa montre qui ne correspond pas à l'heure de la gare. Donc c'est assez compliqué. Parfois, on ne sait pas s'il est, je sais pas, 10h du matin ou 3h de l'après-midi. Ce n'est pas très grave. Mais ce qui est bien, en revanche, c'est le fait qu'il y a donc un décompte des kilomètres. Et par rapport à ça, on peut se repérer à peu près où on est. Oui, aussi un peu par rapport au temps. Et en fait, donc là, le kilométrage change 3 fois, puisque sur la partie chinoise, Pékin, c'est le kilomètre zéro, et la frontière sino-mongole, c'est au kilomètre 842. Ensuite, on commence au kilomètre 1113, à la frontière donc entre la Chine et la Mongolie, et on s'arrête donc au kilomètre zéro, à Sukhebator. Et on reprend donc au kilomètre 5902, et jusqu'à Moscou, donc au kilomètre zéro. Et ça, c'est vraiment très agréable parce que, bon, enfin, il y a beaucoup de choses déglinguées dans ces pays, mais ce qui est magnifique, c'est que, donc, non seulement, je crois, il y a tous les kilomètres, mais tous les demi-kilomètres, tous les 500 mètres. Donc, et toutes ces bornes, donc, le long de la voie ferrée, finalement, on passe son temps plus ou moins à regarder ça.
Et donc vous êtes resté dans le train une semaine et vous avez photographié l'extérieur, l'intérieur, des visages, des encadrements de fenêtres, la campagne vue par le train. C'est aussi peut-être une façon d'inventer aussi peut-être quelque chose, de rester comme ça dans un même lieu une semaine et de dire, d'aiguiser son regard, de dire comment je vais regarder, surtout que c'est une ville, ce transsibérien, c'est une ville à part entière, enfin, puisqu'il traverse tant de villes différentes, tant des gens qui montent, qui descendent, qui restent.
En fait, oui, c'est une caravane en soi, parce que finalement, les gens qui montent à Pékin, bon, je parle vraiment de cette expérience précise, ça se passait à l'automne, c'était peut-être pas une période, disons, très où il y avait beaucoup de monde, il n'y avait pas la grosse cohue, mais tout de même jusqu'à la Mongolie, Ulan Bator, il y avait tous ces gens qui font du trafic. Et là, par exemple, il y avait vraiment tous les ballots. Il y avait, moi, je sais pas, j'avais une cinquantaine de bouteilles de whisky dans mon compartiment. J'avais des fruits, mais des fruits, disons, de luxe, quoi, où chacun était enveloppé. Et le pauvre monsieur qui avait tout ça, les gens sont venus l'attendre à Ulaanbaatar, et il a oublié les fruits. Donc, je pense que pour lui, ça a dû être terrible, quoi, mais... Et après, en fait, après Ulaanbaatar, les gens qui étaient sur le train, finalement, il n'y avait pas vraiment, dans ces wagons-là, disons... de descente et de montée, c'était d'autres wagons qui étaient rattachés. Ah, et là, donc, et finalement, c'était très bien parce que il y avait une sorte d'intimité qui se créait, qui aurait peut-être pas eu s'il y avait eu plus, disons, de mouvement. Et moi, comme j'étais dans un wagon avec seulement des Chinois, il faut savoir aussi que, comme on sait qu'on en a pour une semaine, tout le monde est un peu sur sa réserve au départ. On se dit, celui-là, si je m'avance un peu trop et que finalement je m'aperçois qu'il va me casser les pieds pendant une semaine. Donc ça se fait vraiment très progressivement. Et bon, le repas tout de même, est, à un moment, on commence à partager, quoi, parce que chacun a amené, des petites réserves. Et là, bon, enfin, en plus, la cuisine chinoise est tellement variée et bonne que, enfin, on a tout intérêt à partager avec eux.
Et vous partagez justement vos voyages, en faisant des voyages à pied, des voyages en bateau aussi. Vous avez beaucoup photographié la mer Noire, mais là, l'expérience du train est différente, non ?
C'est vrai que d'habitude, je suis plutôt actif dans mes voyages, je marche, mais c'est tellement bon de s'asseoir dans un train et puis savoir qu'on a une semaine devant soi comme ça. Et personnellement, ce qui m'a étonné, c'est que, bon, j'ai toujours un livre en poche. Et finalement, là, j'ai très peu lu parce qu'il se passe tellement de choses dans le train, par la fenêtre. Et en même temps, je veux dire... beaucoup de choses, c'est-à-dire parfois ça peut être un paysage, ça peut être, mais si on veut être présent et bon le photographier, eh bien il faut en fait anticiper, et pour anticiper, ça veut dire qu'il faut une sorte de regard présent, actif en permanence. Et à un moment c'était très beau parce que je pensais, c'était où, par exemple les couchers de soleil, ça je vous dis pas. Ou alors là, c'était à l'automne, donc ça se passait. La Sibérie, toutes ces couleurs rouges, ocre, dorées de la forêt, c'était. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut que regarder, surtout pas photographier, parce que sinon, on tombe tout de suite dans une photo comme ça, kitsch, stéréotypée. Mais à un moment, j'avais vu, c'était en Mongolie, la forêt qui commençait à bouger. Et je me suis dit, peut-être, je suis un peu trop rentré dans mon monde. Et en fait, c'était une horde sauvage, je crois, de chevaux. C'était comme ça, il faisait nuit. Je me suis dit, tiens, tout bouge. Mais il y en avait, je ne sais pas combien. Et ça, bon, c'est des choses qu'on vit, qu'on garde pour soi. Mais en tout cas, je veux dire, ce qui est important pour moi, c'est ce moment présent toujours. Et finalement, on peut très bien, par exemple, c'était intéressant, il y avait très très peu, disons, d'occidentaux, de touristes, vraiment très très peu. Et il y avait trois autres, jeunes gens qui finalement n'ont pas du tout supporté tout simplement ce confinement, cet espace clos. Et donc, comme il y a tout le temps une voiture restaurant, ils y allaient à coups de vodka. Et finalement, il y a une telle intensité dans ce train comme ça qui bouge, on sait qu'on ne va pas descendre, qu'entre les gens que l'on rencontre, moi je faisais tout le temps, je marchais dans le train, quoi. Après, je descendais aux gares, donc il y a toutes les babouchkas qui vendent les pirochki, blinichki, ça c'est magnifique, c'est de la cuisine aussi ils ont fait à la maison, donc il n'y a aucune crainte par rapport à l'hygiène. Et, Et parce que bon, quand même, le wagon restaurant russe, parce que finalement, c'est une préoccupation quand même de se nourrir. Le wagon restaurant russe, il était assez, disons, archaïque, quoi. Il était très bien, le serveur, il a vu que bon, j'étais tout de même étranger. Et il m'a apporté le plat, mais comme ça, enfin, comme un valet, comme si lui était le valet, et moi, je sais pas, le roi d'Angleterre. Et il me dit « fish ». Mais il y avait une telle solennité. Et bon, enfin, comme il y avait du fish tous les jours, s'il ne m'avait pas dit, peut-être je n'aurais pas su. Mais disons que donc, le fait de descendre du train, de voir un peu, je ne sais pas, en une demi-heure, la petite vie autour de la gare, je ne sais pas, il y avait une intensité là aussi. Et ça aussi, c'était à un moment, j'étais remonté complètement à l'autre bout du train, pas à mon wagon. Et après, j'ai rencontré le pauvre conducteur qui était dans mon wagon, qui s'inquiétait si j'avais raté le train. Donc je dis, même avec les conducteurs, il y a eu comme ça une sorte de rapprochement, quoi.
Et vous photographiez aussi des visages de très près. C'est très, très troublant aussi, ça, cette intensité des visages et de tous ces moments aussi. Il y a un trouble dans vos photos qui... un tremblement presque de l'instant, comme ça.
Oui, comme vous le dites, ça doit être ça. Je dois être troublé, donc automatiquement les photos sont troubles et troublées. Mais ça aussi, par exemple, le fait bon, de n'avoir qu'un seul appareil, format 24-36, ça vous donne une souplesse de mouvement. Mais il faut savoir bon, qu'entre le paysage... Et finalement, l'étroitesse à l'intérieur du train, il y a vraiment enfin, deux infinis comme ça, l'infiniment grand, et l'infiniment loin et l'infiniment rapproché. Et c'est vrai que bon, je marchais dans le couloir, hop, j'avais l'appareil collé contre moi, et clic-clac, je faisais mes petites photos quand on se rencontrait avec les gens dans le couloir, c'est-à-dire qu'ils sont à 20 cm de moi. Et donc c'est pour ça que ces portraits qui, je ne sais pas s'il s'en est, mais là, à travers une vitre, cet homme qui a l'air un peu étonné, je crois, mais un peu inquiet aussi. C'était avant les frontières, ça. C'est parce que ça, c'est bon, c'est un gros morceau, la frontière entre la... En fait, bon, c'est presque encore l'Empire soviétique, disons. En tout cas, pour les Chinois, oui, Mongolie et surtout donc Russie. Mais beaucoup de Chinois avec qui j'ai parlé n'avaient pas pu entrer en Russie via Moscou et via, disons, l'aéroport. Par exemple, il y en avait un, on est très bons amis, c'est le roi de la chaussette. Il a une usine, il m'a raconté 500 personnes qui travaillaient pour lui. Et il avait déjà été à Moscou en avion. Et puis bon, je sais pas, en fait, sa lettre d'accréditation n'était pas bonne. Il a été donc refoulé. Et là, il tentait le voyage par terre. Et ça a marché. Et donc, une fois qu'on a passé la frontière russe, il y avait un soulagement comme ça. Ça, c'était vraiment... Enfin, c'était une réussite, quoi, pour tous ces gens qui essayent de travailler en Russie. Et pour les gens qui le font, là, bon, c'est de toute évidence, ce ne sont pas des touristes. Très souvent, c'est le voyage d'une vie. Par exemple, il y avait une jeune femme, une traductrice, dans le compartiment où j'étais, qui avait quitté avait un enfant en bas âge. Et donc, j'imaginais, quoi, cette jeune femme qui avait appris plus ou moins toute seule le russe et qui allait se retrouver dans ce monde comme ça de businessmen russo-chinois. Et donc, on peut imaginer, quoi, dans quelles conditions elle voyageait avec tout ce qu'elle avait en tête, avec tout ce que cela représentait pour elle. Et elle était sûre de rester au moins un an une première fois, quoi. Donc, il y a en même temps cette lourdeur, quoi. Cette lourdeur, et puis soudain cette disponibilité. Et en fait, c'est vrai, là, si on regarde encore un peu, il y a que des portraits qui sont tout de même très, très concentrés.
Mmh. Et tout ça, très grave, hein.
Très grave, oui. Et tout ça dans le couloir, en marchant, comme ça. Et ça faisait rigoler les conducteurs, d'ailleurs. Ils me voyaient passer tout le temps. Ils me disaient, ah, c'est toi. Donc, je sais pas.
À Chita, nous eûmes quelques jours de répit, arrêt de 5 jours vu l'encombrement de la voie. Nous le passâmes chez M. Yankelevitch, qui voulait me donner sa fille unique en mariage, puis le train repartit. Maintenant, c'était moi qui avais pris place au piano, et j'avais mal aux dents. Je revois quand je veux cet intérieur si calme, le magasin et les yeux de la fille qui venait le soir dans mon lit, Moussorski et les leaders de Hugo Wolf, et les sables du Gobi, et à Kailar, une caravane de chameaux blancs. Je crois bien que j'étais ivre durant plus de 500 kilomètres, mais j'étais au piano, et c'est tout ce que je vis. Quand on voyage, on devrait fermer les yeux, dormir. J'aurais tant voulu dormir. Je reconnais tous les pays les yeux fermés à leur odeur, et je reconnais tous les trains au bruit qu'ils font. Les trains d'Europe sont à 4 temps, tandis que ceux d'Asie sont à 5 ou 7 temps. D'autres vont en sourdine, sont des berceuses, et il y en a qui, dans le bruit monotone des roues, me rappelle la prose lourde de Maeterlinck. J'ai déchiffré tous les textes confus des roues et j'ai rassemblé les éléments épars d'une violente beauté que je possède et qui me force. Tsitsikar et Karbine, je ne vais pas plus loin, c'est la dernière station. Je débarquais à Karbine comme on venait de mettre le feu au bureau de la Croix-Rouge. Blaise Sandrard, prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France. Et vous avez, Claudice Louban, une attente comme ça de comment vous allez photographier dans chaque voyage différent. Est-ce que vous attendez aussi d'être surpris, comme vous attendez aussi de rencontrer des visages nouveaux, des paysages nouveaux? Comment vous placez dans tous ces mouvements?
Ben, l'attente, disons que si... En fait, sur ce voyage, c'est très simple. Donc, j'étais invité au festival de Pingyao en Chine, festival international, plus grand festival en Chine. Je ne sais pas, il y avait plus de 150 expositions. Et bon, ce que je savais, c'est que je voulais revenir par le Transsibérien. Mais pour moi, le gros du travail allait se passer parce qu'une fois arrivé à Moscou, j'ai tout de suite pris un train pour Saint-Pétersbourg. Et je suis arrivé sur la Baltique et actuellement je mène un cycle, disons, de longue durée sur la Baltique. Et pour moi, le cœur du sujet, c'était la Baltique. Et en fait, je suis incapable de faire quelque chose en sachant à l'avance que je le ferai de cette manière-là. Ni la Chine, ni le Transsibérien. Bon, bien sûr, j'ai l'appareil, j'ai les pellicules dans la poche. Mais ce n'était pas ça le cœur du voyage pour moi. Et finalement, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu était tellement fort qu'une fois que je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, finalement au bout du voyage, ce que je pensais pour moi être le début du voyage, j'étais tellement épuisé, j'avais tellement tout donné que en fait j'avais animé un atelier dans une prison près de Saint-Pétersbourg avec les jeunes détenus. Et pendant tout ce voyage, à travers la Chine, Mongolie, Russie, j'avais les petites photos qu'eux avaient faites, que j'avais fait développer à Paris, et je leur ramenais ça. Et en fait, je suis allé dans la prison, et c'est la seule chose de bien que j'avais faite là-bas. Mais sinon, plus d'énergie pour photographier. Mmh. Et donc, par exemple, toutes ces photographies de Chine et du Transsibérien. Je dirais presque, ça s'est fait, enfin, pas malgré moi, mais ça s'est imposé à moi. Et j'avoue que vraiment, j'en ai eu plein les yeux, quoi, de ce voyage en entier. Et puis surtout, enfin, le point de départ, c'était quand même Pingyao. Hein, parce que Pingyao-Pékin, je l'ai fait aussi en train. Mais ça, c'était rien, c'était quoi, un peu moins de 24 heures. C'était train de banlieue. Et avec les petits haut-parleurs comme ça qui vous disent ce qu'il faut faire, les gens qui font encore la petite gymnastique le matin, ça se sent très bien.
Je me souviens, Claudice Louban, qu'on attendait un petit train à Staniel, je crois, un petit village de Slovénie, dans la nuit. Et on l'a attendu longtemps, ce train.
Staniel, oui. Ah, ce sont de beaux souvenirs, ça. Cette sorte d'hôtel, plutôt une pension familiale où nous étions descendus et qui était tenue par en fait, de la famille éloignée à mon père. Et en fait, je ne le savais pas du tout. Mais je pourrais vraiment dire que, enfin, presque toute ma vie a été comme ça, scandée par le bruit des roues du train, entre mes allées et venues entre la France et la Yougoslavie, entre, c'est vrai, ce petit train comme ça qui passait à 2h du matin dans un boucan infernal. Et c'est vrai que, par exemple, moi, bon, cette petite semaine dans le Transsibérien, finalement, ça aurait été un mois, ça ne m'aurait pas déplu non plus.
De ce petit village de Staniel, avec Claudice Louban, on pourrait rejoindre Ljubljana et puis plus loin encore Budapest. Budapest avec Adam Biro, et c'est à la gare de l'Ouest que l'histoire commence.
C'est la gare de l'Ouest, avec la même voix internationale dans toutes les gares du monde. Ça me rappelle toujours le film de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot. Ils descendent, ils remontent. Oh, they speak English, don't they?
Varsovie.
Voilà, où est-ce, alors où vont les trains? Hongrie, quand même, Sturovo, presque exclusivement la Hongrie.
Elle est magnifique, cette gare. C'est fait?
Alors, on a les mêmes Soulon et Soulard internationaux. Il n'y a quasiment pas de train, c'est marrant, il n'y a personne. C'est construit par Eiffel, construction métallique extraordinaire. Et alors, il y a une salle où je suis venu avec ma femme il y a un ou deux ans, qui pour moi, cette salle était étonnante au point que j'ai pris des notes en disant je vais écrire un texte là-dessus, un texte un peu... toute proportion gardée à la Claude Simon, avec une description extrêmement minutieuse et précise de la salle. Sans événements, sans intrigue, la salle, c'est pour moi la concrétisation de l'Europe de l'Est. Mon image un peu négative de l'Europe de l'Est. Bon, j'espère qu'elle est ouverte, on va y aller. C'est un peu plus loin, sur la gauche. Parfois j'y pense à cette salle.
C'est une salle d'attente ?
C'est une salle d'attente. Une salle d'attente. Il fallait entrer quelque part à gauche. Et après... Oui, je crois que c'est par là. J'aime beaucoup les indications également. Il y a une flèche qui va vers le bas, une flèche qui va vers la gauche. On ne sait pas pourquoi. Non, je crois qu'elle est là. Je ne sais pas comment y aller. Legyen szíves, tudnék, itt volt egy váróterem valahol jobb oldalt. Nem tudja, hol volt. Oké, okay, megtalálom.
Túloldalt van váróterem.
De nem, ez az oldalon volt. Hát nem.
Valami ilyen, ez a királyi város, csak akkor nyitják ki, amikor valaki illusztris vendég jön.
Ah, oké. Okay. Köszönöm szépen. Így szépen. Non, non, mais il dit qu'il y a une salle d'attente tellement prestigieuse qu'on l'ouvre que quand il y a un invité de marque, ça, c'était pas le cas. Ça, je peux dire, en ce cas-là, l'invité de marque, il ne reviendrait plus jamais en Hongrie.
Comment elle était alors, cette salle? Comment
je vais essayer de la décrire. C'était une très grande salle avec une lumière néon qui vacillait, mais tellement faible qu'on ne pouvait même pas lire. Il y avait quelques bancs le long des murs. Il y avait une espèce de buffet pour se servir, cerner. Il y avait un gros cadenas et il n'y avait que des bancs bruns. Le mur était peint en brun et le carrelage était entre le blanc et le brun. C'était très haut, avec des images allégoriques de paysages assez heureux en Hongrie. Et le tout était entre un film de Orson Welles, Kafka, et la réalité quotidienne. Je la trouve plus. Je la trouve plus. Mais enfin, vraiment, c'était... J'ai une image assez
terrible, hein,
triste de l'Europe de l'Est, et je pense que cette salle, c'est comme ça que je vois l'Europe de l'Est. Voilà. C'est à la limite de l'humain et de l'inhumain, à la limite de l'horreur et de la banalité quotidienne, à la limite de la lumière et de l'obscurité. C'était juste absolument déprimant. Et c'est pour ça que j'ai regardé ça et je me suis dit, au fond, c'est le procès de Kafka par Orson Welles. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que Kafka, avant d'être un immense écrivain universel, est un écrivain régionaliste. Il décrivait l'Europe de l'Est comme ça. Voilà, il y a une grande salle, il ne s'y passe rien. On y va pour se restaurer, mais le buffet est fermé avec un immense cadenas. Et voilà, mais je vais leur demander où elle est, cette salle d'attente. Bocsánatot kérek, itt volt egy nagy váróterem az előtt.
Azt igen, akartam, van is.
De hogy lehet
oda? A másik oldalon van.
Ezen az oldalon volt. Emlékeztem. Igen, igen, egy hatalmas nagy terem volt. Igen,
az
be van zárva. Jaj, köszönöm szépen. Il dit, oui, effectivement. Mais l'autre côté, il dit, il y a une salle d'attente, l'autre côté, allez voir. Allons-y.
Allons-y, alors.
Allons-y.
C'est
Ah, allons voir. Buffet. C'est pas mal déjà. L'entrée est intéressante. Ça, c'est impressionnant, oui, effectivement. C'est curieux, ici, il n'y a pas de train qui va à l'étranger. Tout est... C'est d'ici que je suis allé en Roumanie l'année dernière. Et je me rappelle, l'achat du billet était une histoire extraordinaire.
Quand vous êtes parti la première fois, c'était en train. Vous êtes parti en train.
Où?
En Suisse.
En 56, à pied.
Oui, à pied.
Ah ben, on a passé la frontière à pied. Non, ça c'est pas, c'est une salle d'attente. Non, c'est pas là. C'était un peu comme ça, en plus sinistre. C'est déjà pas joyeux. Mais c'était encore plus ici que ça. Ça, c'est terrible, on dirait une prison. Des grilles, un gars qui est derrière, mais c'était pas ça. Parce qu'il y a quand même une lumière, enfin. Enfin, c'est pas joyeux.
Non, on dirait un décor de théâtre.
On dirait un décor de théâtre, pas mal fait. Des grilles partout, des grillages, tout est fermé, partout, tout c'est fermé.
Il y a un tableau de Hopper.
Oui, quelqu'un qui dort sur un banc, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment il est arrivé.
Vous êtes parti à pied, là, vous disiez?
Ben, on est allé en train de Budapest jusqu'à la frontière. Et de là, on a... ma mère a loué, enfin elle est restée là, mais elle m'a accompagné, elle a loué un passeur, les services d'un passeur, avec qui nous a, en fait, qui nous a abandonné à mi-chemin, mais théoriquement, il devait nous amener en Autriche. Enfin, il nous a dit, voyez la lumière là, c'est l'Autriche. Enfin, c'était pas vrai, c'était pas l'Autriche, c'était un village hongrois. Donc après, on a marché toute la nuit. Et puis il est retourné. Ma mère attendait dans le village hongrois en disant, ça y est, voilà, et ma mère l'a payé.
Et c'était, vous étiez tout seul après vous
j'étais... Avez... Non, non, c'est un groupe. Il y avait un petit groupe. Il y avait mon copain Gabi, et puis il y avait des gens, des adultes. C'était un petit groupe. Et après, on a marché. On a fait une trentaine de kilomètres. On est arrivé vraiment en Autriche. Mais on pensait que c'était le village qu'on nous a indiqué. On a vu que c'était l'Hongrie parce qu'il y avait des... ça se sentait, la Hongrie. C'était les aboiements de chiens, tout ça. On s'est dit, c'est la Hongrie, c'est pas l'Autriche. Donc on n'y est même pas entré parce qu'on pensait qu'il y avait des soldats. Et on est parti dans une autre direction. Le groupe s'est scindé en deux. On a suivi un jeune homme en qui nous avons confiance. On a eu confiance. On s'est dit, ce type-là, il doit le savoir. On avait raison, parce que les autres sont retournés en Hongrie, et ce gars-là, il était malin, il nous a amenés en Autriche. Et là, on savait qu'on était en Autriche, parce que les barrières autour des fermes étaient en béton. Et en Hongrie, il n'y avait pas de barrière en béton. Donc on s'est dit, ça c'est l'Occident. Et c'était vrai.
Elle dort, et de toutes les heures du monde, elle n'en a pas gobé une seule. Tous les visages entrevus dans les gares, toutes les horloges, l'heure de Paris, l'heure de Berlin, l'heure de Saint-Pétersbourg et l'heure de toutes les gares. Et à Oufa, le visage ensanglanté du canonnier et le cadran bêtement lumineux de Grodno et l'avance perpétuelle du train. Tous les matins, on met les montres à l'heure. Le train avance et le soleil retarde, rien n'y fait. J'entends les cloches sonores, le gros bourdon de Notre-Dame, la cloche aigrelette du Louvre qui sonna la Barthélémy, les carillons rouillés de Bruges-la-Morte, les sonneries électriques de la bibliothèque de New York, les campanes de Venise et les cloches de Moscou, l'horloge de la Porte Rouge qui me comptait les heures quand j'étais dans un bureau et mes souvenirs. Le train sonne sur les plaques tournantes, le train roule. Un gramophone grasseille une marche tzigane et le monde, comme l'horloge du quartier juif de Prague, tourne éperdument à rebours. Les feuilles, la rose des vents, voici que bruissent les orages déchaînés. Les trains roulent en tourbillon sur les réseaux enchevêtrés, bilboquets, diaboliques. Il y a des trains qui ne se rencontrent jamais. D'autres se perdent en route. Les chefs de gare jouent aux échecs, tric, trac, billard, carambole, parabole. La voie ferrée est une nouvelle géométrie. Blaise Sandrard, prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, suite. Plutôt vers des transsibériens au pluriel, Patrick Barre, qu'on pourrait s'engager maintenant, parce qu'on croit toujours qu'il y a un transsibérien, mais en fait, il y en a plusieurs.
Le transsibérien est fait des transsibériens, en fait. Effectivement, le mythe en contient plusieurs, parce qu'il y a trois trains. Il y a le train qui part de Moscou pour aller à Vladivostok, le plus long, puisque là, on va franchir près de 10 000 km et 11 fuseaux horaires. Et puis, il y a le train qui nous emmène à Pékin par la Mongolie, le transmongolien via Oulan-Bator. Et puis, le train qui nous emmène à Pékin via la Mandchourie, le transmandchourien. Voilà donc effectivement les transsibériens.
Et vous avez choisi, vous, de traverser, de prendre ces transsibériens en deux saisons. Vous avez le voyage d'hiver et le voyage d'été.
Oui, j'ai commencé par le voyage d'été. Je me souviens, c'était tout début juillet. Alors au début, partant de Moscou, il faisait presque jamais nuit. Et puis, le train avait pas fait quelques kilomètres à peine que je me suis dit, mais ça, c'est un voyage qu'il faut faire absolument en hiver. Et la décision de revenir faire ce voyage d'hiver, elle a été prise pratiquement au départ du train à Moscou. Et effectivement, ensuite, j'ai sauté d'un train dans l'autre. J'ai pris le train russe, le numéro 1, le Rossiya qui va à Vladivostok. J'en suis descendu pour reprendre le train chinois. J'en suis redescendu pour reprendre le train mongol parce que je voulais absolument tous les emprunter.
Et il y avait une grande ferveur comme ça, j'imagine, quand on est photographe, de vouloir tout prendre, tout capter. Vous avez aussi écrit, tenu un journal.
Alors, heureusement, on peut pas tout capter. Qu'est-ce que ce serait triste si on pouvait tout prendre, tout capter, mon Dieu, non. Non, il y avait un gros appétit, c'est vrai. L'envie de tenir un journal de bord, à la fois en été, en hiver, pour raconter un peu ce qui se passait, pour, disons que le journal, disent l'immontrable, et puis après il y avait les photos pour montrer l'indicible, évidemment, et je trouvais que c'était comme les rails du chemin de fer, c'est-à-dire c'est parallèle, ça se rejoint jamais, mais c'est ça qui nous emmène.
Et c'est Blaise Cendrars qui est à l'origine, en fait, de l'inauguration du Transsibérien, où il a écrit un très beau texte, et on sent que tout votre travail aussi est presque chapeauté comme ça par la présence de Cendrars.
Ah, Cendrars, cette prose du Transsibérien de la petite Jeanne de France, c'est vraiment il a vraiment contribué à l'édification du mythe, je crois. Et puis ce poème, qui est en même temps un hymne à la modernité, il reste très très moderne, il reste très beau. Il m'a fait rêver toute mon adolescence. Il a jamais cessé de me faire rêver. Il est à l'origine du désir de prendre le Transsibérien pour moi. Et alors, il y avait toujours cette controverse sur Cendrars. Est-ce qu'il l'avait pris? Est-ce qu'il l'avait pas pris, ce Transsibérien? Et un jour, je parlais avec Robert Doisneau, qui avait bien connu Cendrars, et je lui demande, mais alors, il l'a pris, ce train, finalement? Et Doisneau me dit, mais moi, je lui ai posé la question, et il m'a répondu, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, puisque je te l'ai fait prendre? Et effectivement, au bout du compte, je comprends, je m'en fous qu'il l'ait pris, puisqu'il me l'a fait prendre. Alors, au propre, comme au figuré, ce coup-là.
Et donc, vous, c'était un rêve d'enfant que de prendre ce train?
C'était complètement un rêve d'enfant de prendre ce train. J'aime beaucoup les cartes de géographie. Et c'est quelque chose qui me fait infiniment rêver. Et alors évidemment, quand on regarde une carte de la Russie, on voit ce pays qui est mais gigantesque au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et quand on pense qu'il y a un train qui traverse tout ça, c'est forcément le rêve. Quand en plus on réalise que ce train peut vous emmener jusqu'à Pékin, alors on se dit que dans un même voyage, on va voir Moscou, on va traverser la Sibérie, on va voir le lac Baïkal, on va traverser la Mongolie, on va voir le désert de Gobi, puis la Grande Muraille de Chine et enfin Pékin. C'est du rêve. Et puis surtout, on va déambuler. Alors ce train, on est dedans, on vit dedans, et c'est ça qui est extraordinaire.
Et vous avez, oui, aussi, comme Claudie Sluban, pris des visages. Hein, ça, c'est très très beau d'être là, juste au moment où il faut, en fait.
Ah, les visages, les gens. Je dis toujours que je suis un photographe animalier spécialisé dans les animaux à deux pattes, donc mes semblables, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de gens, ça ne m'intéresse pas, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et évidemment, ce train, il est plein de monde, et puis les quais sont pleins de monde, et c'est vrai que ça, c'est le grand intérêt. On arrive à la gare de Moscou, tout de suite, ça commence, il y a les marchands mongols avec leurs ballots, il y a les Russes qui s'en vont en Orient, et il y a en même temps le personnel ferroviaire chinois qui arrive de Pékin, qu'on croise sur le quai, qui est fatigué par une semaine de train et qui s'en va se reposer avant de repartir. Tout se mélange au fur et à mesure qu'on avance vers l'Est, sur les quais des gares même, les visages deviennent de plus en plus asiatiques, et donc on a une sensation physique du déplacement aussi à travers les visages des gens, aussi à travers les gens qu'on rencontre, qui sont des personnages hauts en couleur, très hauts en couleur. Par exemple, Pour donner un exemple, à chaque fois qu'on change de pays, on change de wagon-restaurant. Donc le wagon-restaurant est décroché, on en met un autre. Donc il est russe en Russie, il est mongol en Mongolie, il est chinois en Chine. Et alors le premier wagon-restaurant, c'était un wagon-restaurant donc qui était tenu par un russe, qui était un ancien champion de basket qui faisait presque 2 mètres de haut, avec un cuisinier en blouse grise, en short, de pieds nus dans des bottes en caoutchouc, le crâne rasé, qui avait l'air de sortir d'un film de Pavel Longin. Enfin, c'était voilà quoi. Le mythe était à la hauteur de la réalité. Après, les marchands mongols qui se battaient à coups de vases en pyrex entre eux au wagon restaurant. On était en plein Far East. Et puis alors les Chinois avec le wagon restaurant décoré pour la fête du Tet, pour le Nouvel An chinois. Enfin, tout ça et puis tous les gens. Qu'on rencontre dans le train, probable et improbable, comme par exemple ces compagnons du devoir allemand qui arrivaient de Bordelum, ça s'invente pas, pour aller restaurer une pagode traditionnelle en Chine, ou bien comme cet ingénieur ferroviaire ou ce jeune pianiste qui venait de la frontière moldave et qui allait voir ses parents à Vladivostok. Rendez-vous compte, il allait être plus près de New York à Vladivostok que de chez ses parents.
Et toutes les marchandises, tous les vêtements aussi qu'on colle presque au train, qu'on montre par la fenêtre, qu'on suspend aux fenêtres, ça, vous les avez très bien montrés, ces moments aussi.
Ah ben ça, c'est formidable, ça c'est le train du mercredi, celui qui part le mercredi soir à minuit de Moscou, ce qui est donc un train mongol, c'est le train des Mongols. Alors c'est la terreur des Russes. Mon Dieu, il va y avoir les Mongols. Ils ont gardé un souvenir cuisant de Gengis Khan. Et les Mongols, ils les regardent comme des barbares. C'est un peuple formidable, les Mongols. Mais de fait, ce train est un train de marchands. Alors, il y a tout un système. Les Russes vont à Istanbul acheter des tas de vêtements. Et puis, les Mongols viennent acheter ces vêtements par plein ballot à Moscou. Ils en chargent le train. Et tout au long du parcours jusqu'à la frontière mongole, ils vendent, c'est un supermarché sur roue tout simplement. Alors vous arrivez dans une gare, vous avez 3000 personnes sur un quai de gare, et parmi cette foule, il n'y a pas un voyageur qui monte dans le train, il n'y a pas non plus de voyageur qui va descendre du train, ces gens ne sont là que pour acheter. Et le train s'arrête en gare un quart d'heure, 20 minutes, et alors là, tout le monde est saisi de fièvre acheteuse, se précipite, et on vend par les fenêtres, et on vend par les portières, et on descend sur le quai. Le plus grand risque étant que le train reparte sans vous, tellement il faut fendre la foule pour remonter dans le train, et alors là, pour une poignée de dollars, on s'échange toutes sortes de choses. Alors, on retrouve la liste, l'inventaire à la Prévert qui est fait par Sandrars au début de son poème, et là, effectivement, on va vendre des casquettes de baseball, des parapluies, des moustiquaires pour lutter contre les nuages de moustiques qui envahissent chaque été la Sibérie, des anoraks en duvet pour l'hiver, des faux Calvin Klein qui vous déteignent sur les fesses au bout de 10 minutes quand vous les avez achetés pour l'énorme somme de, je ne sais pas, $2. Enfin bon, tout est comme ça, et alors c'est extrêmement drôle.
Oui, il y a la phrase de Sandrar que vous citez. L'un emportait 100 caisses de réveil et de coucou de la forêt noire, un autre des boîtes à chapeaux, des cylindres et un assortiment de tire-bouchons Sheffield.
Et on pourrait compléter par des dalmatiens, des œufs, des yaourts nature, des blue jeans, des casquettes, des parapluies et que sais-je encore.
Et il y a aussi, Patrick Barr, les tout petits détails hein, que vous signalez, comme la marque de biscuits qui s'appelle Prolétaire.
Ah oui, alors ce sont les scories du socialisme défunt, donc en Russie. Alors, il y a ça, par exemple, et puis il y a des rencontres avec des personnages comme ce marchand malien, Malik, qui est parti à Irkoutsk faire des études de géologie, parce que c'est vrai que à l'époque de l'URSS, il y avait des échanges entre les pays africains et l'URSS, donc lui, il avait eu une bourse pour étudier la géologie à Irkoutsk. Et puis voilà qu'un beau matin, il se réveille, il n'y a plus d'URSS. Et il n'y a plus non plus de billets de retour pour le Mali. C'est terminé, adieu Bamako. Et donc, il reste coincé à Irkoutsk. Il finit par épouser une marchande mongole du train. Et puis, le voilà qui vend des casquettes dans le train entre Irkoutsk et Moscou. Voilà. Alors, on a plein de petits détails comme ça.
Et il y a aussi les choses, les paysages qu'on voit par la fenêtre, la nuit, à l'aube aussi. Il y a une très belle aube en Sibérie que vous décrivez.
Oui, alors l'aube, elle est interminable en été, elle est interminable en hiver, en ce sens que en été, le soleil ne se couche presque jamais. Alors, évidemment, il est 2h du matin et il fait grand soleil. Et en hiver, c'est le jour qui ne se lève presque jamais. Donc on a pendant 4 heures, à peu près 4 ou 5 heures, une sorte d'aube, voilà. Et donc dans tous les cas, on a cette lumière magnifique et très désorientante, d'autant plus désorientante qu'à l'intérieur du train, évidemment, de Moscou jusqu'à l'océan Pacifique, il est l'heure de Moscou, tandis que dans les gares, il est l'heure qu'il est, tout simplement. Et donc, on prend assez vite des habitudes déroutantes, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, il est minuit dans le train, alors qu'il est 7 ou 8 heures du matin sur le quai. Donc, enfin, une vie déréglée. Et on mange quand on a faim, on dort quand on dort, sans plus du tout se préoccuper de l'heure qu'il est. Alors, c'est tous ces petits détails qui finissent par vous faire vivre au rythme du train, d'autant plus que la Russie est, je le disais, un pays dont on ne mesure pas la taille. C'est gigantesque, on ne le dira jamais assez. Et ce pays finit par vous faire trouver que, somme toute, les États-Unis sont d'une taille assez raisonnable, voire un petit pays à côté. Ça paraît paradoxal, mais je crois que c'est à peu près la seule chose qui puisse faire comprendre à quel point c'est grand.
Et vous aimez aussi les gares ?
J'adore les gares. C'est formidable, les gares. Alors, les gares, elles sont évidemment staliniennes, forcément staliniennes, et avec toute la rigidité, mais aussi parfois toute la beauté qui va avec cette architecture-là. Et alors, on a des marchandes de poissons fumés, de pommes de terre à la nette, de pull-over en chèvres angora qui perdent leur poil. On a vraiment ces gares, c'est toute une ambiance aussi que j'aime beaucoup.
Et vous traversez aussi à un moment, quand le transsibérien chinois roule vers Pékin, le désert de Gobi.
Alors oui, le désert de Gobi, la Mongolie, c'est un pays cher à mon cœur. C'est un pays qui est grand comme 3 fois la France, où il y a 2 millions, pas tout à fait 500 000 habitants, dont 1,5 million presque sont désormais dans des villes. Donc ça fait 1 million de nomades qui occupent un pays 3 fois grand comme la France. Donc le pays est vide, presque vide. Et on a cette notion d'espace qu'on a nulle part ailleurs, avec ces yourtes qui sont posées là comme des jouets. Et alors le désert de Gobi, la traversée du désert de Gobi, c'est incroyable quand on la traverse en train, parce qu'on a ces bandes de gazelles saïga, si nombreuses parfois qu'on dirait que la terre se met à bouger, qui fuient devant le train, et puis il n'y a rien sinon, évidemment. Si la Mongolie est déjà un pays vide, alors le désert de Gobi serait le vide moins quelque chose. Et pourtant, au passage du train, on a les gens avec leurs panneaux qui signalent que la voie est libre, et on les voit, et on se dit, mais d'où sortent ces gens ? D'où viennent-ils? Où vivent-ils? Fort probablement dans une yourte cachée derrière la colline au loin. Mais quel destin singulier que de vivre au bord de la voie transsibérienne, en plein milieu d'un désert absolu, juste pour, au passage du train, une fois tous les jours ou tous les 2 jours, être là avec son signal pour indiquer que la voie est libre.
Et on peut bien voir aussi les différences. Hein. J'aime bien quand vous notez justement les différences mentales, comme ça, des Mongols et des Chinois par rapport au lieu.
Il n'y a pas plus différent, je crois, qu'un Mongol et qu'un Chinois. Je crois que tout les oppose depuis des milliers d'années, dirons-nous. Parce que les Mongols sont un peuple d'éleveurs nomades La terre y est collective, sinon ça rendrait tout nomadisme impossible, évidemment. Et les Chinois, bien au contraire, c'est un peuple de jardiniers, historiquement de propriétaires. Et donc, ces peuples-là ont parfois du mal à se comprendre. Depuis si longtemps d'ailleurs que la muraille de Chine a été élevée pour arrêter les charges des cavaliers mongols qui se ruaient, ou proto-mongols en tout cas, qui se ruaient sur la Chine dès 400 ans avant Jésus-Christ et jusqu'au 15e siècle. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup sur les relations entre les Chinois et les Mongols. C'est un discours de Mao Tse-Tung dans les années 70 où il dit « Oh là là !» Quel peuple formidable que le peuple chinois qui a construit cette muraille incroyable, 7000 km de long, le seul monument de main d'homme qui se voit de la lune, etc., etc. Enfin, un discours fleuve. Et puis, il y a un homme politique, un ministre à Oulan-Bator, qui répond d'une phrase très laconique en disant « Mais quel peuple formidable que celui qui a foutu une telle trouille aux Chinois qu'ils avaient besoin de construire ça !»
À partir d'Irkoutsk, le voyage devint beaucoup trop long, beaucoup trop lent. Nous étions dans le premier train qui contournait le lac Baïkal. On avait orné la locomotive de drapeaux et de lampions. Et nous avions quitté la gare aux accents tristes de l'hymne au tsar. Si j'étais peintre, je déverserais beaucoup de rouge, beaucoup de jaune sur la fin de ce voyage. Car je crois bien que nous étions tous un peu fous. Et qu'un délire immense ensanglantait les phases énervées de mes compagnons de voyage. Comme nous approchions de la Mongolie, qui ronflait comme un incendie. Ce train avait ralenti son allure et je percevais dans le grincement perpétuel des roues les accents fous et les sanglots d'une éternelle liturgie. Blaise Sandrard. Peut-être avant d'arriver au désert de Gobi, vous avez aussi traversé le lac Baïkal. Ce sont des noms comme ça qui font rêver, qu'on a entendu en fait en géographie. Ça fait partie des noms mythiques qu'on aime simplement prononcer. Et comment c'est le lac Baïkal quand on le voit du Transsibérien, Patrick Bas?
À quiconque prend le Transsibérien, à qui prendra le train, je dirais, il convient de s'arrêter. Le Baïkal, c'est pas un lac, c'est un être. En tout cas, les Bouriates le considèrent comme un être, et je crois qu'ils ont fondamentalement pas tort. On a là devant soi, c'est pas rien, 20% de l'eau potable de la planète. C'est-à-dire que nous, on est fait d'eau, on a besoin d'une eau qu'on puisse boire pour ne pas mourir. Eh bien, un cinquième de toute l'eau que tous les êtres humains peuvent boire est là, devant nous, à nos pieds. Rendez-vous compte. 600 kilomètres, de long, à certains endroits 80 kilomètres de large, et 1600-1700 mètres de fond. C'est un géant d'une eau incroyablement douce, alors on doit cette douceur et cette clarté à un micro-organisme qu'on appelle l'épizoura, qui nettoie en permanence l'eau de ce lac, qui la recycle, et il y a dans ce lac des animaux, alors ça aussi c'est un grand mystère, d'origine marine, alors que le Baïkal n'est pas du tout connecté à un océan quelconque. Il y a un poisson endémique du Baïkal qu'on appelle l'omoul, qui est un salmonidé, qui est très bon d'ailleurs, que les babouchkas vendent fumé dans les gares. Mais il y a aussi des phoques d'eau douce, alors ça c'est incroyable. Et pourtant, le lac n'est relié à aucune mer. On suppose qu'autrefois, il y a eu un réseau hydrographique qui l'a conduit à l'océan Arctique, mais au jour d'aujourd'hui, ce réseau a disparu et le lac est sur une sorte de gigantesque faille, de rift, qui s'est enfoncé, dit-on, jusqu'à près de 7000 mètres. Enfin, c'est incroyable. C'est un lieu habité, réellement vivant. qu'on y soit en été ou qu'on y soit en hiver. Ce qui est fabuleux en hiver, c'est qu'on s'aventure dessus. Alors évidemment, ça fait du bruit. Il y a une banquise, il y a des humox à cette taille-là, forcément. Il fait alors moins 30, moins 40. Et puis quand même, quand on s'aventure sur les eaux du lac, on n'ose pas marcher parce que quand on regarde la glace, on voit l'eau à travers. Alors on se dit, c'est pas possible, la glace n'est pas très épaisse. Et quand même, si je marche là-dessus, je risque de tomber. Et puis d'un seul coup, on est doublé par un camion qui passe. Alors là, on se dit, bon, c'est bon, on peut marcher. Et en fait, l'eau est si claire que justement, la glace elle-même est très transparente. Alors il y a à Sliudanka des usines de pâte à papier dont on a longtemps parlé, parce que c'est vrai, elles ont menacé de polluer le lac. Et l'industrie russe s'est tellement ralentie que l'un des effets positifs de ce qui a été par ailleurs une catastrophe pour les emplois, c'est que les usines ont diminué leur activité de moitié. Et puis, je pense qu'on va finir par les fermer totalement parce que l'autre richesse du lac, à savoir l'eau potable, est maintenant exploitée et on boit une eau minérale qui est pompée à 400 mètres sous la surface du lac, l'eau Baïkal. Et donc voilà, il y a tout ça. Et puis il y a ces petits villages qui sont extrêmement touchants parce qu'on est là. Il y a des izbas traditionnels en bois et on se retrouve en train de manger du poisson fumé. On se retrouve dans un bain russe en train de se fouetter avec des branches et se verser des seaux de glace sur la tête et de boire de la vodka. Et puis les gens voient peu de touristes passer de toute façon. Donc quand un voyageur se promène dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui va sortir d'un bar ou qui va sortir de chez lui pour vous inviter à boire, partager un thé ou pour vous offrir un poisson congelé que vous allez ramener chez vous pour faire cuire. Enfin bon, les gens sont extrêmement... Les Sibériens sont très, très chaleureux, très fraternels. Puis Irkoutsk, qui est cette ville, cette capitale intellectuelle de la Sibérie, parce que depuis la révolution des décembristes en 1825, les pensées humanistes, le siècle des Lumières est arrivé jusqu'en Sibérie, puisque les décembristes, pour mémoire, donc, avaient essayé de fomenter une révolution inspirée de la révolution française en Russie contre le tsar en 1825. Le complot a été déjoué. Il y avait d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, des Françaises qui étaient pour certaines épouses d'officiers comploteurs. Et tout ce petit monde a été déporté en Sibérie, dans la région d'Irkoutsk, et s'est implanté et a été à l'origine d'un démarrage intellectuel de la région. Il faut dire que on n'a pas attendu le communisme, enfin la Russie n'a pas attendu le communisme pour déporter en Sibérie, puisque les tsars, les premiers, l'ont fait, et que à l'époque, il n'y avait pas le transsibérien, mais il y avait une piste qu'on appelait le tract, qui traversait la Sibérie, et par laquelle les déportés s'en allaient à pied. Et donc, c'est par ce chemin que les décembristes sont partis à Irkoutsk, qu'ils ont transformé en capitale intellectuelle. Les Sibériens se disent d'abord Sibériens avant de se dire Russes. Mmh. Ils ont cet esprit indépendant très très fort. Quand je parle de Far East, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce tract, c'est par ce tract qu'on a acheminé à la fois les forces humaines et le bois et les rails pour construire la voie ferrée. Ça a été un chantier gigantesque, c'est des millions de traverses qu'on a posées quand même, à partir du projet démarré à la fin du 19e siècle et qui s'est terminé en 1916. Et puis c'est des milliers de morts, de typhus, des bagarres d'ivrognes, de froid, d'épuisement, enfin bon... Ça a été très lourd en vie humaine et puis ça a été très long. On ne vint pas impunément un géant comme la Sibérie.
J'aime ces images aussi de nuit, hein, ces trains de nuit dans la neige.
Alors ça, ces trains de nuit dans la neige, c'est extraordinaire. La photo qu'on voit là, la photographie qu'on regarde, c'est une photographie en hauteur. On a un train endormi sous sa couche de neige, un quai lui-même couvert de neige, désert. C'est le genre de photo qu'on fait parce qu'on se réveille, le train est arrêté en gare, on sait pas l'heure qu'il est, on écarte le rideau, il y a du givre un peu sur la glace, alors on frotte, on fait une photo à travers la vitre, on se rendort aussitôt et voilà. Mmh. Et c'est fait comme ça. Et puis il y a les photos où on descend du quai, alors il fait très froid comme à Taïga par exemple, il y a des photos qui sont faites à la gare de Taïga, où j'ai failli rester d'ailleurs parce que j'étais tellement préoccupé par mes photos que je me suis pas aperçu que le train repartait. Et donc on a des ambiances qui sont hors du temps, hors de l'espace. Et c'est très, très, très photogénique. Ces lumières noires et blancs, la neige, le noir des trains. On retrouve Sandra, j'ai vu passer les grands trains noirs qui venaient d'Asie. C'est exactement ça.
Et ces personnages aussi dans le train, c'est comme un film, en fait, tout ce que vous avez rassemblé. Il se prête bien, d'ailleurs, à là, j'aime beaucoup ce visage souriant, confiant, qui vous regarde. Et il y avait un plaisir aussi, peut-être, de se laisser photographier. Je sais que chez les Mongols aussi, ça vous a étonné, cette façon de dire vous pouvez garder une photo.
Quand on voit tous ces visages, effectivement, ce sont des visages de connivence, très souvent. Alors, sur la page précédente, pourtant, il y a un Français qui est resté une rencontre marquante. Oui, c'est cet homme allongé qui dort dans son compartiment, puisqu'en fait, lui, il est un descendant de Georges Dantès. Et c'était une rencontre pourtant très russe, bien que cet homme soit français, puisque Georges Dantès était l'homme qui a tué Pouchkine en duel. Et lui était venu en pèlerinage en Russie parce qu'il voulait connaître le pays où son aïeul avait tué Pouchkine pour les beaux yeux d'ailleurs de la femme de Pouchkine, Gontcharova. Et quand il rencontrait les Russes, quand même, son aïeul, son ancêtre, avait tué le plus grand poète russe et pourtant les Russes lui tombaient dans les bras. Qu'il est beau l'assassin de papa, quelque part.
Et donc, vous avez parlé avec lui?
Oui, 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 on a beaucoup parlé, puisqu'on a passé une grande, grande, grande partie du voyage ensemble. Et il était très ému par le fait de revenir sur les traces de son aïeul. Et c'est vrai que cette histoire de Dantès et de Pouchkine est très marquante. Et c'est vrai, vous dites, c'est comme un film. Il y a quelque chose du domaine du film, peut-être parce que le décor, j'allais dire, c'est pas un décor d'ailleurs, mais le paysage défile derrière les fenêtres comme un décor de film qui se déroule. Il y a quelque chose de ça. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du mythe, pas seulement dès qu'on monte dans le train, mais déjà bien avant. Quand vous êtes dans Moscou, sur qui tombe la neige, en pleine nuit, de la même façon qu'on est sur ces quais de gare, et quand vous êtes à l'étendue Patriarche, que vous marchez, il y a les silhouettes des femmes dans leurs grands manteaux de fourrure, et vous vous dites, ben voilà, c'est là que commence le maître et Marguerite de Bulgakov. Et c'est là que le maître rencontre Marguerite. Et ben là, déjà, on est dans le mythe. Et là, déjà, on frissonne.
Mais après avoir fait ces voyages en transsibérien, Patrick Barr, qu'est-ce que vous pourrez retenir peut-être de toutes ces images?
Ce que je vais retenir, moi, de ce train, c'est qu'il est conforme tout à fait au train que j'aime. J'aime pas les trains qui sont des produits. Le transsibérien n'est pas un produit. C'est un train qui est peuplé de voyageurs, qui est peuplé de marchands, qui vivent dans le train carrément. Et donc, on chercherait en vain, par exemple, un t-shirt souvenir du transsibérien. Ça n'existe pas. Ni t-shirt, ni vaisselle griffée, ni rien de tout ça. Pas le moindre souvenir, rien. C'est le degré zéro, parce que justement, c'est un train, un vrai, authentique.
C'est une maison.
Oui, le transsibérien, c'est une espèce de maison. C'est une maison sur roue, une maison qui bouge. En même temps, pour les Russes qui sont immobiles, c'est une pendule dans les villages où ils passent. C'est une pendule à laquelle, y compris, on peut être hostile dans les zones les plus pauvres de la Sibérie. J'ai vu qu'on jetait des pierres sur le train parce que c'était le train des riches. En même temps, c'est sans doute un des trains les moins chers au monde par kilomètre. Et je souhaite que ça reste comme ça. C'est l'anti-TGV, voilà. C'est l'éloge de la lenteur et c'est ce que j'aime.
quittons ce transsibérien Jean-Baptiste Aran et revenons les pieds sur terre, presque, on pourrait dire.
Oui.
Vous l'avez pris, vous, le transsibérien?
Non, j'ai pas pris le transsibérien, j'ai pris l'étoile rouge qui va de Saint-Pétersbourg à Moscou, qui est aussi un train beaucoup moins aventureux que celui dont on vient de nous parler, mais qui est aussi assez spectaculaire. Oui, j'ai un bon souvenir de ça. Oui. Voilà, mais les pieds sur terre, bon, c'est une semaine un peu particulière pour moi parce que des pieds sont tombés sur terre. Un enfant, un homme est né tout près de moi et j'avais envie de vous en parler et je me suis souvenu que... Enfin, si on peut appeler ça un souvenir. Je me suis souvenu de ma naissance, j'allais dire. Mais je me suis souvenu surtout que dans un livre, il y a longtemps, j'avais raconté ma naissance. Et j'ai la chance d'être né à l'ancienne. C'est le privilège du grand âge. Et, c'est-à-dire chez ma maman et mon papa. Non, pas dans leur lit, parce qu'il y avait des marches à monter dans un petit lit près d'une cheminée. Enfin, à l'endroit que je connais, où j'ai la chance de pouvoir aller. Et c'est une naissance un peu difficile. On me l'a raconté. Enfin, j'y étais, hein, mais je n'ai pas un grand souvenir. Mais en tout cas, les traditions dans la famille de dire que ce docteur, qui s'appelait docteur Chrétien, qui est resté notre docteur de famille pendant quelques temps, avait fait les gestes qui convenaient pour que je survive à cette épreuve. Et je me souvenais avoir raconté ça dans un livre, et puis pour ne pas l'appeler chrétien, je l'avais appelé protestant. Et puis c'était pas bien, donc je l'avais fait proteste. Et puis en venant vous voir, je me suis dit, je vais retrouver cette page où je raconte cette naissance. Et j'ai pris le livre et je l'ai lu et je ne raconte pas cette naissance. Le docteur proteste est bien dans ce livre-là, mais c'est d'une mort qu'il s'agit.
Et vous aviez le souvenir d'une naissance.
Ouais, ah oui, je suis sûr de ça. D'ailleurs, il y a une allusion à cette naissance. C'est un livre sur... d'un type qui, sur les défauts de mémoire, d'un type qui prétend ne pas avoir la mémoire des souvenirs, mais avoir toute autre forme de mémoire, mais je ne sais pas s'il y a d'autres formes de mémoire que la mémoire des souvenirs. Et cette mémoire m'a manqué, et dans le métro, en venant, j'ai ouvert, j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai lu toutes les lignes, j'ai cherché le docteur proteste, et je l'ai trouvé. Et c'est l'histoire d'un mort qui raconte son enterrement, d'un vieux monsieur, et il parle du docteur proteste, et si vous voulez, tant pis, je voulais vous parler d'une naissance. Et je vais vous parler d'une mort d'un homme de 99 ans qui râle dans son cercueil. 99 ans aux prunes, monsieur le président. Oui, il s'adresse au président du tribunal du jugement dernier parce qu'il a fait des conneries dans sa vie, il se méfie un peu. 99 ans aux prunes, monsieur le président, et je pisse par le même trou qu'avant. Le robinet coupé du docteur proteste. Il doit être mort, celui-là. Il avait fallu qu'il m'en enlève un bout, pas gros, pour que je puisse pisser. Menteur, je pissais déjà, j'arrosais large. Marguerite a dit, ça fera du mou pour les chats. Au-tu qu'on ne tuait pas les chats. Il y en avait plus de 50, c'est maintenant qu'il me faudrait un fils pour lui raconter ça. Un arrière-petit-fils, il ne me croirait pas. Tu vois, avec Gédéon, on dormait dans le même lit, on montait à cru le même cheval, on disait maman à la même femme qui n'était ni sa mère ni la mienne. Elle nous faisait la soupe. Nous l'aimions pour l'odeur de farine de ses bras, pour les jours où elle ne nous giflait pas. Nous allions à l'école à pied, 3 kilomètres, nous étions comme des frères en blouse grise, des gamelles en émail, comme des ouvriers. Et j'ai sauté une page, donc je suis perdu. Mais ça fait rien,
c'est normal si ça fait partie de trop de mémoire.
J'ai sauté plus qu'une page, j'ai sauté des plombs de la mémoire. Et tout ça. Donc le docteur proteste, le voilà. A signé le permis d'inhumer, vous voyez, c'est une drôle de naissance. Mmh. Hein. Il n'a pas changé, ce vieux coupeur de robinet, toujours les ciseaux à la bouche et la main baladeuse à suivre les convois en blouse blanche. Et Marguerite, assise dans l'arbre, elle balance ses jambes comme des goupillons de requiem. En rentrant, je lui dirai de me faire une omelette baveuse, une omelette mal mélangée, sucrée, flambée au rhum, une omelette d'enterrement. On l'a retrouvée pendue dans la grange, enceinte de 6 ou 7 mois.
Il y a quand même le mot « enceinte ». C'est pour ça que vous aviez pensé... À la naissance.
Je sais pas, ça m'a beaucoup troublé de voir ça. Enfin voilà, je voulais juste évoquer ça et penser...
saluer aussi peut-être ce petit homme. J'aime bien la formule aussi quand
voudrais...
on dit un homme est né.
Et tomber les pieds sur terre. Voilà, non, je voulais juste dire que Camille, Alice et Étienne ont un frère qui s'appelle Émile.
Merci Jean-Baptiste Aran et bienvenue à Émile.
Bonne journée, bonne semaine et bonne éternité. Bon déroulement, bon séjour et dans les âmes et les peines. au ressourcement. Merci pour tout, bonne soirée, bonne semaine et bonne éternité.
Merci pour tout, donc, et merci aussi à Patrick Barr. L'album Transsibérien est paru chez Marval. Merci à Claudie Sluban, le catalogue intitulé Ex, d'une exposition à Ljubljana au musée d'art moderne avec des photos de Balkans en transit, de la mer Baltique et de ses camps en prison en URSS, en ex-URSS et en Slovénie. Merci à Adam Biro à la gare de l'Ouest de Budapest, un voyage que je vous raconterai fin janvier. Merci à vous, Claude Esteban. Janvier, février, mars, le poème que vous avez lu donc est extrait de ce recueil chez Farago. Je signale aussi donc le dernier numéro de la revue IF, spécial transsibérien, avec des textes de Jean-Jacques Vuitton, Liliane Giraudon et Henri Deluy. La prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France, le poème de Blaise Sandrard, est paru chez De Noël, et également en poésie Gallimard dans les œuvres de Blaise Sandrard.
Suis-je aussi chargé que ne l'est l'atmosphère? Suis-je aussi salin que ne l'est l'eau de mer? Suis-je aussi lointain que celui qui veut plaire? Suis-je aussi masqué que ton Diego?
C'était Carnet Nomade, attention au départ, prise de son Vincent Ronet et Bernard Laniel, réalisation Vincent Deck, une émission de Colette Fellouz, première diffusion sur France Culture le 9 janvier 2004.